Alors, on est toujours dans cette série sur l'Apocalypse. On est déjà au chapitre 10, où il y a déjà quelques sceaux qui ont été ouverts, et à l'ouverture du septième sceau, commencent à sonner des trompettes, et six trompettes ont sonné. Et on est maintenant au chapitre 10, où, un petit peu comme il s'était déjà produit, il y a comme des parenthèses. Hein. Des fois, on a là une succession d'événements qui se produisent, puis tout d'un coup, on a quelque chose qui se déroule, et c'est le chapitre 10, qui ne correspond pas vraiment à la suite logique des trompettes qu'il y avait auparavant. C'est comme si on était là dans une parenthèse. On a parlé des événements qui étaient sur la terre. À chaque fois qu'une trompette sonnait, il y a eu toutes sortes de fléaux qui se sont déroulés, accomplis sur la surface de la terre. Et puis là, la parenthèse nous ramène au ciel, où on revient avec Jean. Donc on est dans Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et je ne l'écris pas. Et on se dit, mince, on aurait bien voulu savoir ce qu'avaient dit les sept tonnerres. Mais Jean, on lui a dit, ne l'écris pas, scelle-le, enferme-le, cache-le, et que ce ne soit pas ici écrit. Donc, ça commence avec un ange spécial, puisqu'il est question d'un autre ange puissant. Alors là, évidemment, on a beaucoup de mystères, hein, et on peut toujours se poser des questions en disant, mais qui est cet ange? Ben, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Certains vont parler de l'ange Gabriel, parce que le mot puissant ici, en grec, sonne un petit peu comme Gabriel, mais enfin en hébreu plutôt, mais néanmoins, rien n'est sûr ici. Notons qu'il y a, dans le message qui est apporté ici, dans le message de ce petit livre, et puis dans cet ange qui vient, eh bien, va faire essentiellement référence à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ses alliances, et on a quelques éléments qui nous le rappellent. L'arc-en-ciel, ça vous rappelle quelque chose? L'arc-en-ciel, c'est arrivé quand l'arc-en-ciel pour la première fois? Avec Noé. Et on voit qu'ici, il y avait une promesse qui a été faite à la descendance de Noé. De la même manière, on a ici, eh bien, une nuée et une colonne de feu. Et ça nous rappelle évidemment quand le peuple est sorti d'Égypte, conduit par la nuée, la colonne de feu, et évidemment le petit livre qui peut nous faire référence aussi aux tables de la loi. Hein? Donc ici, on a différentes indices aux alliances que Dieu a pu faire dans le passé. Mais ici, c'est comme s'il y a quelque chose de spécial, parce qu'évidemment, on va se poser la question, mais il y a quoi dans ce livre-là? C'est quoi le contenu de ce livre-là? En allant un peu plus loin, on verra le contenu de ce livre-là. Alors, ce n'est pas la peine d'y rentrer maintenant, mais avant d'arriver au livre, on avait les sept tonnerres, pardon, on va mettre les choses dans l'ordre. Les sept tonnerres ici, c'est quoi ces sept tonnerres? Ben, là encore, c'est un petit peu comme quand des fois Jean nous parle de les quatre anges ou les quatre vents, c'est comme si c'était évident que tout le monde savait ce que c'était, mais ici, les sept tonnerres, on n'en sait pas plus. On ne sait pas trop ce que c'est, à part le chiffre 7, quand il est question des sept esprits, on comprend que c'est les sept esprits de Dieu. Et ici, les sept tonnerres font référence certainement à la voix de Dieu. Parce que ce n'est pas la première fois dans la Bible que l'on parle du tonnerre comme étant la voix de Dieu. Par exemple, dans le psaume 29, il est question du tonnerre, et ce tonnerre fait référence à la voix de Dieu. Vous vous souvenez aussi, à un autre moment dans l'Évangile, une voix se fait entendre et qui, alors que Jésus rentre dans le temple et qui vient confirmer que Jésus est fils de Dieu, mais les auditeurs ont cru entendre le tonnerre. Et donc quand la voix de Dieu s'est manifestée, ça a paru comme étant le tonnerre. Donc ici, vraisemblablement, c'est la voix de Dieu qui se manifeste, mais un peu comme dans 2 Corinthiens 12:4. L'apôtre Paul nous parle d'un événement qui lui était arrivé dans 2 Corinthiens 12:4. Si ça vous dit quelque chose, ça, on va y aller vite. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il est dit, verset 3, enfin, verset 2, je connais quelqu'un, et puis il dit au verset 4, qui fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, je connais quelqu'un qui a une vision céleste, qui a entendu des paroles si merveilleuses qu'il ne lui est pas permis de les répéter. Et pas permis de les exprimer. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec Jean ici. Jean entend eh bien, les 7 tonnerres et il est prêt à écrire. Ça veut dire qu'il a compris. Ce n'est pas juste du bruit qu'il a entendu, puisqu'il est prêt à écrire ce qu'il a entendu. Donc il a entendu des paroles, il a entendu un message, il a entendu quelque chose de clair, de net, de précis. Il s'apprêtait à l'écrire. Mais il entend une voix qui dit « scelle », c'est-à-dire « mets un couvercle là-dessus et ne l'écris pas ».« Scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas ». Et donc, ça nous est maintenant caché. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient produire comme effet pour nous, lecteurs de l'Apocalypse ce soir ? Bien, ça vient nous montrer que il y a des choses qui se passent dans le ciel, qui ne nous est pas autorisé d'entendre, même si Jean ici l'a entendu, il y a quelque chose que lui a entendu, mais que nous ne connaissons pas. Et que, en revanche, il y a d'autres choses qui nous sont autorisées d'entendre et qui sont là pour nous comme une révélation, c'est ce que signifie le mot Apocalypse, qui sont là comme une révélation, un dévoilement, afin que l'on entende et qu'on comprenne ces choses et on comprend que, si l'Apocalypse est écrit, c'est dans un but évidemment d'encourager, d'exhorter et de faire du bien. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit livre ? Mais je vous parle du petit livre, mais on ne l'a pas lu encore, donc j'anticipe un petit peu. Verset 5, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre et ceux qui s'y trouvent, et la mer et ceux qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de délai jusqu'au jour de la voix du 7e ange. Le 7e ange qui sonne la 7e trompette. Et donc, il est question ici d'un moment précis où il n'y aura plus de délai. Et dépendamment des traductions, certains ont traduit « il n'y aura plus de temps ». Je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible. Et donc, certains ont « il n'y a plus de délai » ou « il n'y a plus de temps ». Alors, certains vont faire un petit peu de philosophie en disant « mais c'est sûr que quand on arrive dans l'éternité, le temps n'existe plus ». Et c'est peut-être ce que cela signifie, qu'il n'y a plus de temps parce que le temps n'est plus. Ou alors tout simplement que ben, le temps est proche, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de pause. Il était question de cette pause d'une demi-heure de silence dans le ciel et on est là à la 7e trompette, hein, le 7e ange et la 7e trompette et il n'y a plus de délai, ça veut dire que les choses s'enchaînent et c'est la fin et il n'y aura plus de temps disponible supplémentaire. Alors ce temps ici donc indique vraiment que la dernière trompette est la fin de toute chose et aussi bien le 7e sceau c'était la fin. Et la 7e trompette, c'est aussi la fin. Et on a un enchaînement de 7 sceaux et ensuite un enchaînement de 7 trompettes, mais c'est comme si les 7 sceaux arrivent à la fin, comme les 7 trompettes arrivent à la fin, mais ça ne veut pas dire que ce qui va être écrit dans le reste de l'Apocalypse se situe après. C'est comme si ici on a une projection dans la fin, puis après on va revenir, on va reculer dans le temps. Hein. Donc il faut suivre un petit peu. C'est une question de présentation, dans le sens où comme on présente cette trompette, il ne dit pas, bon, je vais vous présenter la trompette 1, 2, 3, puis je vais vous parler d'un tas de choses après, ensuite la trompette 4, et puis 5, 6, 7, 8 chapitres après, nous parler de la septième trompette. On nous présente les sept trompettes d'un coup, et la septième étant celle de la toute fin, même si l'Apocalypse va reprendre des éléments qui vont se dérouler avant la septième trompette. Et verset 7, il dit « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Et ici, on va faire référence en fait à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant les temps eschatologiques, concernant la temps des fins, concernant la fin des temps. Que le mystère s'accomplit. Alors, il y a plusieurs moyens de parler de ce mystère en disant c'est quoi l'accomplissement de ce mystère. L'apôtre Paul parle de mystère assez souvent et dans l'Ancien Testament, il est aussi question de mystère, mais le mystère, pas forcément dans un sens mystérieux, puisque le mystère est révélé à ceux qui cherchent et que Dieu révèle son mystère et que quelque part, il nous fait comprendre le mystère. Donc, ce n'est pas un mystère qui a pour but d'être compris de personne, un petit peu comme l'Apocalypse, ce n'est pas un mystère qui a pour but d'être compris de personne, mais c'est au contraire une révélation afin que nous ayons part à la connaissance, à la compréhension de ces choses. Verset 8, « La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. » Donc dans la main de cet ange, il y a un petit livre qui est ouvert et qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et c'est quoi ce petit livre? Et ce petit livre ici, littéralement ce Biblaridion, c'est, on aurait presque pu traduire aussi ce tout petit livre. C'est vraiment ici excessif, hein, c'est le tout petit livre. Et on se souvient qu'il y avait eu déjà un livre, mais qui était plus grand, et qui était scellé de sept sceaux. Un livre qui était fermé, un grand livre fermé, et ici, un petit livre ouvert. Il y a donc un contraste entre le livre que personne ne pouvait ouvrir si ce n'est celui qui en était digne, à savoir Jésus, et ici ce petit livre qui par contre est accessible, qui est ouvert, qui est dans la main de l'ange et qui est proposé à Jean, et que donc Jean va devoir assimiler. Alors, ce petit livre, évidemment, beaucoup vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce petit livre? C'est quoi le contenu de ce petit livre? Eh bien, le contenu de ce petit livre, c'est ce que Jean va prophétiser, c'est ce que Jean va annoncer, et c'est en fait une révélation partielle de ce qui est contenu dans le grand livre. Comprenez, ce petit livre est donc un ensemble du grand livre. Dans le grand livre, qui était donc scellé de sept sceaux que personne ne pouvait ouvrir, eh bien, c'était le plan complet, le dessin général, le plan complet de ce que Dieu, du dessein de Dieu, de ce que Dieu va accomplir, des plans de Dieu. Et ce petit livre, c'est un petit peu comme, si on disait, c'est l'Apocalypse en elle-même, où c'est ce petit livre qui est donc une révélation qui nous est offert accessible, qui est ouvert, qui n'est pas fermé, qui n'est pas obscur, qui est ouvert et que Jean a pour mission de proclamer. Au verset 11, on le relira tout à l'heure, mais je vais directement au verset 11, il dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Donc on voit que la conclusion de ce passage-là, c'est « Jean, il faut que tu prophétises. » Et donc le contenu de ce petit livre va l'amener donc à prophétiser de nouveau, parce que ce petit livre, il doit le manger. C'est ce qu'on trouve au verset 9. Alors qu'il doit prendre ce petit livre, il dit « J'allais vers l'ange et je, en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Et donc, il doit avaler, avaler. Et avaler ici, comprenez, on utilise encore cette expression dans le français d'aujourd'hui quand on dévore un livre. Hein, c'est vraiment qu'on l'assimile. Et le terme grec qui est utilisé ici, kataphage, c'est vraiment donc avaler, mais c'est avec ce sens d'assimiler. On s'imprègne de cette parole-là. Et donc Jean a pour mission d'avaler. Alors, comprenez, je ne sais pas si vous voulez le prendre au sens propre en disant ben, Jean s'est retrouvé à manger un livre, ou alors il a lu le texte de ce livre et il l'a dévoré. Hein? Donc là, on va arriver dans quelques instants à voir un petit peu s'il faut aller dans du symbolisme ou dans du littéral. Mais en tout cas, une chose est sûre, Jean va saisir le contenu et le message de ce livre-là et va être amené ensuite à prophétiser et à développer et rapporter le contenu de ce qu'il aura assimilé, c'est-à-dire avalé. Un petit livre qui est doux comme le miel, et ça, ce n'est pas sans nous rappeler l'expérience de prophète de l'Ancien Testament. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Où aussi il avait dû manger un livre et qui était doux. Et même dans Jérémie, dans cette parole qui était bonne, à un moment donné, il va parler d'amertume par rapport au message, au malheur qu'il annonce. Donc on a d'un côté, c'est doux. Et de l'autre côté, c'est amer. C'est doux dans la bouche. Et on peut comprendre que la parole de Dieu, le message, la prophétie, eh bien, quelque chose qui est douce, qui est bonne, qui encourage, qui exhorte et qui nourrit, mais qu'il y a aussi un goût d'amertume parce que ça fait référence aussi à une souffrance par laquelle vont passer les chrétiens. Et ce n'est pas juste le sort des méchants, ce n'est pas juste le sort des mauvais, mais il y a aussi... Eh bien, un temps difficile sur toute la surface de la terre, aussi bien pour celui qui est chrétien que pour celui qui ne l'est pas. Et dans ce sens-là, il y a aussi donc un goût amer. Il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et donc, ce petit livre qui était doux dans sa bouche, ça nous rappelle aussi ce qu'on a dans les psaumes. Hein, psaume 19, ça vous dit quelque chose? Psaume 19, 11, où la parole de Dieu est douce. On a ça aussi dans le psaume 119, on va déjà aller dans le psaume 19. Psaume 19, 11... Psaume 19, 11, où il est dit « Ils sont plus doux que le miel ». Donc, il est question ici des jugements de l'Éternel. Et ce petit livre est là, doux comme du miel, dans la bouche de Jean. De la même manière, on avait ça dans le psaume 119 aussi, verset 103. Psaume 119, verset 103. Et on a ici un double effet. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et on comprend que les paroles qui sont douces à son palais, ben c'est quand on mange sa parole, et bien comme Jean est invité à le faire ici, et bien ça amène une douceur au palais, c'est quelque chose qui est bon, même s'il peut y avoir un effet d'amertume dans un second plan. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va dire par rapport au chapitre 10. Il n'y a pas grand-chose vraiment de difficile par rapport à ce texte-là, à part les choses que Jean a entendues et qu'on ne peut pas savoir. Mais c'est des choses qu'il faut accepter. Et puis qu'ici, ben, Jean nous fait une pause par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Et on comprend que le verset 11 ici, il faut que tu prophétises de nouveau. Et donc l'Apocalypse, c'est la prophétie de Jean, c'est ce que Jean prophétise, c'est donc le message qu'il a reçu de cette vision-là. Eh bien, on comprend alors que ce n'est pas juste l'idée de Jean, hein, et on est conscient de ça, c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais que c'est un message qui est ciblé, qui est dirigé, qui est dicté, et qu'il y a des choses cachées et des choses qu'on révèle ici. Et donc, si on croit que Dieu est sage et qu'il est pédagogue, on comprend alors que ce n'est pas révélé dans n'importe quel sens et dans n'importe quel ordre, mais qu'il y a une pédagogie dans cette révélation afin eh bien, que ça produise un effet en nous. Et l'effet que ça produit en nous ne doit pas être la perplexité en disant « j'y comprends rien », mais doit être un effet au contraire d'encouragement. On l'avait vu au tout début avec le chapitre premier. Il faut se souvenir que c'est très important le premier chapitre d'un livre parce que c'est ce qui prépare à la lecture de tout le livre. Et dans le chapitre premier, on avait bien insisté sur le fait que ces paroles avaient été écrites eh bien, pour encourager, pour exhorter et pour amener à cette louange. On arrive avec le chapitre 11 où on se retrouve avec les deux témoins de l'Apocalypse, si vous avez entendu parler déjà des deux témoins de l'Apocalypse. Mais avant, on se retrouve dans le temple. Apocalypse chapitre 11, verset 1er. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu. » Et le roseau ici, c'est une unité de mesure ici. C'est donc pour mesurer ici, c'est l'étalon. Il dit « On donna donc un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. » Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. On a déjà parlé des 42 mois, qui correspondent à 1260 jours, et ça fait 3 ans et demi. Et donc ce chiffre-là ici et là. Maintenant, c'est quoi ce temple ici qu'il faut mesurer ? Il y a plusieurs interprétations qui ont été données par rapport à ce temple-là. Et il faut reconnaître que il y a deux oppositions, on va dire, deux interprétations diamétralement opposées dans l'approche. La première est de considérer qu'il y a un temple à Jérusalem. Et c'est juste sur la base de ce verset-là eh bien, que l'on va dire, le temple doit être rebâti à Jérusalem. Et il y a même actuellement encore des personnes qui préparent, et même ont fait des plans, travaillent, et sont comme prêts à la reconstruction d'un temple. Et donc, ont préparé toute une infrastructure pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et vous avez peut-être déjà entendu ce genre d'approche eschatologique en disant avant que la fin des temps n'arrive ou avant que Jésus ne revienne, il faut que le temple soit rebâti parce qu'on fait référence ici à ce temple que Jean doit mesurer. Mais maintenant, il faut reconnaître que si on garde ce verset dans le contexte dans lequel il est, les choses ne sont pas si évidentes. Parce qu'avant d'arriver ici au chapitre 11, on avait le chapitre 10, le 9, le 8, où s'est passé toutes sortes d'affaires. Si vous vous souvenez de nos sauterelles qui avaient des cheveux, une face d'homme et puis une queue de scorpion, c'était toutes sortes d'affaires. Et est-ce que ce temple ici, c'est un temple physique exact ou alors c'est symbolique et spirituel ? Certains vont dire le temple ici, c'est l'Église, en disant ce temple représente bien ceux qui adorent, et puis c'est l'Église qui proclame, qui annonce. Certains vont dire c'est l'Israël ethnique, c'est-à-dire c'est les Juifs ici qui rendent leur culte à Dieu. Maintenant, il faut reconnaître que dans nos églises, souvent, on a considéré, on a dit, c'est vraiment le temple qui doit être reconstruit. Malgré toutes les contraintes que ça peut avoir, et même des fois, on va essayer d'associer ça avec d'autres versets. Par exemple, si le temple doit être reconstruit, il doit être reconstruit à l'emplacement de l'ancien temple. Il ne peut pas être reconstruit ailleurs. On ne va pas dire, on va reconstruire le temple au bord de la mer ou on va lui trouver une meilleure place, comme ça ne posera pas de problème. Non, il faut le reconstruire à son endroit. Actuellement, on a juste un mur du vieux temple de Salomon, et ce mur s'appelle le mur des lamentations. Et le mur des lamentations, ce n'est même pas le mur du temple, c'est un mur de soubassement de fondation du temple. Ce n'est même pas un mur extérieur, c'est un mur de fondation et qui a été excavé. Puis maintenant, c'est ce qu'on appelle le mur de lamentation, parce que là, les Juifs vont se lamenter sur la gloire et la beauté du temple qui a disparu et qui a été détruit. Alors, s'il faut reconstruire le temple à cet endroit-là, ça devient assez compliqué, parce que Jérusalem est le haut lieu religieux de trois grandes religions. Des Juifs, puisque c'est la ville sainte, Jérusalem, des musulmans. Il y a la mosquée d'Omar qui est exactement située à l'emplacement du temple actuellement. Et dans cette mosquée, il y a la pierre sur laquelle Ismaël a été sacrifié par Abraham. Vous connaissez, Abraham avait deux fils, Isaac et Ismaël, et Dieu lui demande de sacrifier Ismaël. Et au moment où il allait sacrifier Ismaël, Dieu l'arrête. Et bon, ça, c'est dans le Coran, c'est la version du Coran. Ce n'est pas tout à fait la même version que dans la Bible. Dans le Coran, c'est Ismaël, et dans la Bible, c'est Isaac. Mais en tout cas, il y a cette pierre du sacrifice qui se retrouve dans cette mosquée, et ça devient un lieu très important dans l'islam. Et il y a évidemment les chrétiens, les catholiques sont très présents, il y a eu beaucoup de guerres de religion et puis de croisades qui se sont déroulées pour gagner ce territoire-là. Tout le monde voulait avoir Jérusalem parce que c'était la ville importante, aussi bien pour les juifs que pour les arabes, que pour les chrétiens. On comprend, ça devient compliqué. Et certains vont dire, bon, la reconstruction du temple dans un contexte comme ça, à moins que ce soit un temple multi-confession. Et certains envisageraient que le temple serait à la fois un temple qui pourrait servir aux juifs, aux chrétiens et aux arabes. Bon, mais avec l'idée de l'antichrist qui vient mettre la paix et faire une religion mondiale, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce n'est pas aussi évident que d'affirmer ce soir. Et personnellement, je sais qu'il y en a qui le font, il y a certains théologiens, dont Alexander est l'un des principaux, vont affirmer qu'il faut que le temple soit reconstruit. Le temple va être reconstruit à Jérusalem sur la base de ce verset-là. Ce n'est pas aussi simple de prendre ce verset en disant oui, il est question d'un temple. Mais vous savez, dans Ézéchiel aussi, il est question d'un temple. D'un temple que Ézéchiel mesure. Vous vous souvenez que Ézéchiel, qui a aussi un roseau, même ici que Jean, il y a son petit roseau, Ézéchiel aussi a un roseau, qui doit aller mesurer le temple. Et on a par contre dans Ézéchiel des descriptions exactes, mais quand on essaye de faire le plan avec les descriptions d'Ézéchiel, ça ne matche pas avec le temple de Salomon. Donc on dit c'est un autre temple et des théologiens se cassent la tête pour savoir où est le temple d'Ézéchiel. Alors certains vont dire, oui, mais le temple d'Ézéchiel, c'est celui qui va être rebâti à Jérusalem, ou alors c'est un temple céleste et qui se retrouve plus dans une vision céleste, de la même manière que Moïse a vu le tabernacle dans le ciel afin d'en refaire la reproduction sur la terre. Est-ce que la vision d'Ézéchiel est une vision d'un temple réellement, physiquement terrestre, ou c'est un temple céleste avec une portée spirituelle? Parce que quand même, de ce temple-là, il y a quand même une rivière qui sort, il y a un arbre de vie, il y a quand même des choses qui nous rappellent plus. L'arbre de vie, ça rappelle plus le jardin d'Éden ici que le mont des Oliviers à Jérusalem. Donc, on comprend que ce n'est pas aussi simple. Et je crois que c'est un peu simpliste de dire, l'Apocalypse nous dit clairement. Non, on peut dire l'Apocalypse, certains pensent, en lisant ce passage de l'Apocalypse, que le temple va être rebâti. On pourrait le comprendre ainsi, mais on ne peut pas dire c'est marqué clairement que le temple doit être construit. Maintenant, je ne vais pas m'obstiner avec quelqu'un qui va dire il faut que le temple soit reconstruit, parce que je ne le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il va y avoir un culte à Dieu qui va être restauré certainement. Mais est-ce que le temple va être rebâti de la même manière que Salomon avait pu le bâtir? Ou alors ça va ressembler au temple de Zorobabel, où il y en a qui vont pleurer et d'autres qui vont se réjouir en disant c'est formidable, le temple est rebâti. Puis d'autres vont pleurer en disant oui, mais il n'a rien à voir avec celui d'avant qui était quand même beaucoup plus grand, spacieux, et puis riche, puisque c'était quand même plaqué or, hein, le temple de Salomon, c'était majestueux, et les rois et les reines de toute la région étaient époustouflés devant la beauté, la splendeur de ce temple-là. Alors, ici, on a juste un ordre qui est donné, juste dans un verset, hein, à Jean, eh bien, de mesurer le temple de Dieu. Et d'autant plus que ce qui amène un petit peu la confusion, c'est qu'au chapitre 10, on avait une parenthèse qui nous avait ramené au ciel. Hein, au chapitre 8, chapitre 9, on était sur la terre avec des fléaux sur la terre. Et là maintenant, le chapitre 10 nous avait ramené au ciel où on voit Jean qui est dans le ciel avec l'ange ici et le petit livre. Et le chapitre 11, eh bien, nous ramène donc au temple, mais on n'a aucun indice qui nous dit qu'on est revenu sur la terre. On pourrait très bien admettre qu'on est toujours dans le ciel. On n'est pas dit, et on est revenu à Jérusalem, et j'ai mesuré à Jérusalem. Il faut juste parler d'un temple. Et qu'il y ait un temple, la maison de Dieu dans le ciel, ce ne serait pas surprenant, non? Que Dieu habite au ciel. Ça ne vous surprend pas si on prend ce genre de déclaration. Alors, bon. D'autres vont dire, non, mais c'est vraiment le temple physique, mais c'est la date qui ne marche pas. Parce que certains vont dire, au moment où Jean écrit. Alors évidemment, tout dépend à quelle date on met la datation, hein, à quelle date on met la rédaction, eh bien sur l'île de Patmos, de l'Apocalypse. Mais si on met ça dans une date un peu plus tôt, certains vont dire au moment où Jean écrit, le temple n'est pas encore détruit. Et ou alors le temple est sur le point d'être détruit, ou alors le temple vient d'être détruit, et en disant, il fait référence au vrai temple. Et il fait référence ici au temple qui va être détruit par Titus, puisqu'il est question après, eh bien, d'une ruine qui va avoir lieu. Donc, certains vont dire, non, c'est le vrai temple, mais le temple, à l'époque de Jean, est vraisemblablement avant la destruction par les armées romaines et donc le général Titus qui va donc détruire Jérusalem et incendier Jérusalem et détruire le temple. Et d'autres vont dire, le temple ici, ça a plus une connotation symbolique, et le temple, ça peut être l'Église, et il y en a qui vont dire, mais l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il le dit à deux reprises. À un moment donné, quand il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est un vous qui est vraiment un vous personnel, c'est vous la personne, toi en tant que personne, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais la deuxième fois, quand il dit vous, c'est un vous qui est pluriel cette fois-ci, et c'est un vous qui est collectif en disant « ensemble, vous êtes le temple du Saint-Esprit », comme l'apôtre Pierre qui dit que « ensemble, nous formons un édifice spirituel, nous sommes des pierres vivantes hein, ». Vous vous souvenez de ce que dit l'apôtre Pierre ? Nous sommes des pierres vivantes et ces pierres, eh bien, qui sont les unes avec les autres, forment un édifice spirituel et dans ce sens-là, une maison spirituelle, un temple spirituel. Alors, c'est une idée qui peut être développée en disant « le temple ici, peut être l'Église ». D'autres vont dire, parce qu'il y a quand même deux parties à ce temple-là. D'un côté, il doit mesurer le temple avec l'autel et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du temple, il faut le laisser de côté. Comme s'il y a une partie importante à mesurer, mais le parvis extérieur, lui, il ne compte pas et il va être même foulé, donné aux nations. Comprenez, les nations, dans le langage juif, les nations, ça veut dire les goyim, hein, c'est les non-juifs. Il y a les juifs d'un côté et il y a les nations. Donc les nations, c'est les non-juifs. Et donc à cause de cela, certains considèrent que le temple pourrait être l'église et le parvis pourrait être l'Israël ethnique, c'est-à-dire les juifs vivant en Israël et qui seraient donnés aux nations et foulés aux pieds par les nations pendant les 42 mois qui sont ici. Alors, voilà ce que je peux dire par rapport à Apocalypse 11.1, c'est que rien n'est sûr. Enfin, moi je ne suis pas du genre à affirmer des choses qui ne sont pas capitales. Puis déjà, je ne vais pas m'obstiner si quelqu'un dit non, le temple va être construit, pourquoi pas. Mais je veux aussi dire à celui qui dit « Ah, tant que le temple n'est pas reconstruit, il n'y a pas de problème, Jésus ne reviendra pas. » Je dis « Attention là, tu prends peut-être une chance. Hein, parce qu'il y en a qui se disent « Ce n'est pas plus grave que ça, le temple n'est pas reconstruit, si je ne suis pas prêt, ce n'est pas grave, Jésus ne revient pas, le temple n'est pas reconstruit. » Tu prends une chance. Hein, parce que justement, l'Évangile nous dit qu'il revient au moment où tu ne t'y attends pas. Donc si tu t'attends à ce qu'il ne revienne pas pour telle et telle raison, si tu t'y attends, c'est là qu'il risque d'arriver, puisque tu ne t'attends pas qu'il arrive au moment où tu attends qu'il pense qu'il n'arrivera pas. Vous me suivez? Donc, ça peut être même très dangereux de considérer que parce que le temple n'est pas reconstruit, Jésus ne peut pas revenir. Surtout qu'on voit que l'argument est faible et que le verset n'est pas si évident que cela, juste avec ce verset-là, de considérer « Non, le temple physique va vraiment être reconstruit. » Peut-être, peut-être pas. On verra. Hein, ça peut se produire dans pas longtemps. Hein. On sera peut-être là, on sera peut-être pas là. Et on est là, ici, pendant une période de 42 mois. Et 42 mois, c'est donc ces 3 ans et demi qui sont là. Et ces 3 ans et demi font référence certainement aux paroles de Daniel, où il était question d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Une année, 2 années et une demi-année. Ça fait nos 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors là encore, il y en a qui vont dire, à cause du un temps, des temps et la moitié d'un temps, il ne faut peut-être pas prendre cette période-là comme étant des chiffres exacts en disant ça va vraiment durer 3 ans et demi et pile au milieu des 3 ans et demi il va se passer quelque chose pour un autre 3 ans et demi afin d'avoir une semaine donc de 7 ans, une semaine prophétique et donc d'avoir ici une période de 7 ans. Là encore, il y a le débat entre littéral et symbolique. Est-ce que c'est vraiment une période de 7 ans et ça va durer 3 ans et demi, ou alors ça représente une période de 42 mois, de 1260 jours. 42 mois, certains vont dire, mais ça rappelle la traversée du désert, où il y en a qui ont compté qu'ils ont fait 42 campements quand ils ont fait les 40 ans au désert. Donc, 42 mois pourraient passer à cette période-là. Et d'autres vont dire, mais ça rappelle aussi une période très connue de l'histoire d'Israël. Pour nous, ça l'est un peu moins, mais c'est la période d'Antiochus Épiphane. Vous avez déjà entendu parler d'Antiochus Épiphane et puis des Maccabées. Les Maccabées, hein. Les Maccabées, ils ont existé. Hein. C'est pas parce que c'est pas dans notre Bible qu'ils n'ont pas. Les Maccabées, dans certaines Bibles, il y a 1 et 2 Maccabées, puis on peut même aller trouver 3 et 4 Maccabées aussi encore. Ah oui, bon. Les Maccabées, c'est une dynastie de rois, on va dire. Et il y avait Judas Maccabée, Jonathan Maccabée. Il y a ce qu'on appelait la révolte des Maccabées. C'est dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À l'époque d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand avait une technique un peu spéciale au niveau de... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu un empire grec aussi fort et aussi grand. C'est parce qu'il associait les gens du pays et il les mettait de son bord plutôt que de les prendre comme adversaires et comme ennemis. C'était un petit peu comme on envahit à l'amiable, hein, en disant si vous respectez tel et tel et tel de mes accords et si vous acceptez de devenir grec, eh bien on ne va pas vous détruire. Tandis que les autres, ils arrivaient, ils brûlaient tout le monde, ils détruisaient tout et puis il ne restait plus rien. Tandis qu'Alexandre le Grand n'était pas du genre à détruire une ville, mais si cette ville s'est mis des années ou des siècles à la construire, tout avantage à la garder intacte et qu'elle soit ma possession plutôt que de la détruire et de dire maintenant tout le pays est à moi. Mais si c'est pour avoir un pays détruit, si on détruit les plantations, si on détruit les vignes, si on brûle tout, à quoi ça sert d'avoir un pays où tout est brûlé et tout est détruit? Alors, Alexandre faisait des alliances aussi avec, il y avait du marchandage et il y a eu des accords religieux qui se sont passés aussi en donnant un certain droit à Israël eh bien, de continuer à exercer sa religion dans le temple. Mais à un moment donné, il y a eu Antiochus Épiphane qui a fait l'abomination de l'abomination, à savoir offrir un cochon sur l'autel du temple. Alors, le porc, c'est évidemment l'animal impur par excellence dans le judaïsme. Et puis là, c'était vraiment le scandale des scandales. Et ça rappelle ce que Daniel avait pu prophétiser. Et Daniel avait prophétisé ces choses. Et il y a eu une période très difficile, une période d'oppression, une période de persécution envers le peuple Israël qui s'est révolté, une période qui a duré 3 ans et demi. Et les historiens disent ça durait 3 ans et demi, cette période-là. Et donc, il y en a qui vont dire, quand Jean écrit l'Apocalypse, eh bien, cette période d'Antiochus Épiphane n'est pas si loin. Et on se souvient de cette grande persécution des Juifs. Il y a eu celle des Romains, mais ça c'était plus par rapport à l'Église. Mais là, on fait une référence identitaire aux Juifs en disant, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, parce que c'était juste quelques centaines d'années avant la venue de Jésus, et de dire, ben ici, il y a eu une persécution qui a duré 3 ans et demi, et certains vont dire, ben ici, l'Apocalypse, quelque part, utilise les dates de Daniel dont on s'était dit, c'est certainement cette période d'Antiochus Épiphane. D'autres, et je vous l'avais dit il y a quelques semaines, avaient dit, ben la semaine qui manque, elle va arriver, c'est celle de l'Apocalypse. Alors, vous voyez que cette même semaine peut servir à deux événements à la fois à cette période d'Antiochus Épiphane et aussi à cette septième semaine que l'on trouve dans l'Apocalypse. En tout cas, on a un temps, des temps et la moitié d'un temps. On a ici une période de 42 mois, une période de 3 ans et demi. Certains vont prendre ces 3 ans et demi au sens littéral en disant c'est vraiment 3 ans et demi qui s'accomplit. D'autres vont dire, ben non, c'est juste une période de grande persécution qui est assez courte, qui est limitée dans le temps, et qui a un temps, deux temps et la moitié d'un temps, mais on ne peut pas garantir que ça va durer juste 3 ans et demi. Est-ce que ça va durer 4 ans? Est-ce que ça va durer 5 ans? Est-ce que ça va durer 10 ans? Là encore, ce n'est pas aussi simple, surtout que dans le même chapitre, ben on va y arriver. On va arriver au... Enfin, je vais sauter quelques versets, puis on va revenir en arrière. Il est dit au verset 8, il est dit concernant la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Dans le même chapitre, il dit il y a une ville, on est donc 11:8, Apocalypse 11:8, cette ville, cette grande ville que l'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Et cette ville que l'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, c'est évidemment Jérusalem. Oui, ben, c'est clair ici. Mais si on ne nous avait pas dit qu'on les avait nommés symboliquement Sodome et Égypte, mais qu'on nous avait juste parlé de Sodome et Égypte, je suis sûr que nous, on aurait vu toutes sortes de choses, mais pas forcément Jérusalem. Mais dans le même chapitre, donc, on voit qu'il y a des symboles. Alors, jusqu'où on va? Qu'est-ce qui est un symbole et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui doit être considéré comme symbolique et qu'est-ce qui doit être pris dans le sens littéral et le sens propre du terme? Sachant que dans le même chapitre, on parle de l'Égypte, mais ce n'est pas l'Égypte. On parle de Sodome, mais ce n'est pas Sodome, c'est Jérusalem. Parce que c'est symboliquement Sodome, Égypte, Jérusalem est devenu symboliquement l'Égypte et Sodome. Je reviens à nos témoins de l'Apocalypse. Alors, il est dit, je donnais à mes deux témoins, verset 3, 11:3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et 1260 jours avec des mois de 30 jours, ça fait 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Alors, on a ici deux témoins. N'oublions pas que le mot témoin en grec, c'est le mot martyr. Des fois, il y en a qui veulent être témoins, mais témoin, c'est un martyr. Hein. C'est le même mot. Donc, on a ici deux témoins qu'on connaît, peut-être sont mieux connus sous le nom des témoins de l'Apocalypse, qui ont donc un rôle spécial. C'est mes deux témoins. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 6, il y en a 2. et qui ont une mission de prophétiser, mais qui ont aussi un pouvoir. Au verset 4, il est dit « Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Et je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait connecter ça avec Zacharie chapitre 4, où il y a ici aussi deux oints, hein, qui sont Zorobabel et Josué, et qui sont aussi appelés comme étant des oliviers, où il y a deux oliviers et qui ont un rôle particulier dans la reconstruction du temple. Et là, justement, on parle de temple au début du chapitre. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu mêlés avec tout ça. Alors, en tout cas, on a deux chandeliers qui sont deux oliviers, deux témoins et qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ça nous rappelle le prophète Élie, où la pluie a été fermée. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et ces plaies dont il est question ici, l'eau changée en sang et la terre de toutes sortes de plaies, ça nous rappelle les trompettes de l'Apocalypse qu'il y a eu juste auparavant. Et on voit comme s'il y avait d'autres fléaux. Eux, ils ont le pouvoir d'amener encore d'autres fléaux. Quand ils auront achevé leur témoignage. Donc, ils ont un témoignage qui doit durer 3 ans et demi. Alors, est-ce que c'est 3 ans et demi top chrono ou c'est une période de un temps, deux temps et la moitié d'un temps? Et ces deux témoins donc ont pour but de prophétiser, d'annoncer, de proclamer. Évidemment, on s'est posé beaucoup la question sur l'identité de ces deux témoins. Ceux qui remportent le plus la palme, ça va être Élie et Moïse. Certains vont considérer que ces deux témoins, c'est Élie et Moïse. On va dire, ces deux-là étaient déjà sur la montagne de la Transfiguration. On va dire, ils n'ont pas eu une mort officielle, donc c'est plus facile de revenir quand on n'est pas vraiment mort. Puis il y en a un qui a été enlevé au ciel, et puis l'autre, on cherche toujours son corps. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Moïse, on n'a pas retrouvé son corps, si vous vous souvenez de ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu revenir peut-être, être là sur cette montagne de la Transfiguration pour encourager Jésus. Nous devons dire, puis Élie et Moïse, c'est très symbolique aussi, dans le sens où c'est la loi et les prophètes. Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. Élie, c'est le prophète par excellence. Il y a Ésaïe, qui est un très grand prophète, et Élie et Élisée, c'est les trois prophètes principaux. On va dire les grands prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, mais Élie représente quelque part les prophètes. Donc on a Élie et Moïse, ça peut être la loi et les prophètes. Alors est-ce que c'est ces deux-là qui vont venir? Certains vont dire, ça pourrait être Élie parce que dans la venue du Messie, il fallait que Élie prépare le chemin du retour du Seigneur. On l'a vu dans la première venue de Jésus. Et on a demandé à Jean-Baptiste s'il était l'Élie qui devait venir, et cette voix qui crie dans le désert. Et Jean-Baptiste l'a été d'une certaine manière, mais pas complètement. Et dans ce sens-là, il y en a qui disent qu'il y a encore cet accomplissement qui doit venir d'un prophète qui prépare et annonce et prophétise le retour du Seigneur. Et donc le retour de Jésus va être comme... annoncé, préparé par ici les deux témoins. Et donc certains voient Élie parce que les prophéties concernant Élie ne sont pas toutes accomplies encore. Et le deuxième pourrait être Moïse. D'autres vont plus aller dans le Nouveau Testament en parlant de Pierre et Paul. D'autres vont parler de telle ou telle personne. Ou d'autres vont dire non, ça c'est plus symbolique. Les deux témoins, c'est l'Église. Ou c'est l'Église qui témoigne. D'autres vont dire, c'est un témoignage collectif, dans le sens où c'est tous ensemble, nous formons les deux témoins de l'Apocalypse. Alors c'est là toute la difficulté de savoir la différence entre le symbole et puis le littéral. Parce que si on commence à être symbolique, eh bien, tout va devenir symbole et finalement, on ne sait plus trop ce qui va se passer et comment ça fonctionne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces deux témoins seront clairement identifiés. Ça ne va pas être quelque chose de mystérieux en disant, est-ce que les deux témoins, ce serait l'Internet et puis le... Non, je veux dire, ça ne va pas être aussi flou que ça, puisqu'ils vont être persécutés, ils vont être mis à mort et ils vont ressusciter. Donc, c'est clairement identifié comme étant humain, et puisqu'ils peuvent mourir et revenir à la vie. Et ces deux témoins, donc, font fonction de prophètes, prophètes au sens large du terme, c'est-à-dire qu'ils annoncent et qu'ils préparent le retour du Seigneur. Et avec un pouvoir, comme les prophètes pouvaient en avoir auparavant, de fermer le ciel et d'amener toutes sortes de plaies. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça veut dire, comme message d'encouragement, c'est pas fameux. Hein. Vous aviez dit que l'Apocalypse était un message qui encourage. Et les deux témoins, ou si on dit les deux martyrs, peut-être que là ça sonne mieux. Hein. Les deux martyrs de l'Apocalypse sont tués et la bête va les vaincre. La bête qui monte de l'abîme. On aura l'occasion de reparler de la bête bientôt. Alors c'est pas, je développe pas trop là-dessus. Et elle va les tuer, mais lisons la suite. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et on sait que Jésus n'a pas été crucifié à Sodome et qu'il n'a pas été crucifié en Égypte. Hein. Il s'agit bien de Jérusalem ici. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ça fait beaucoup de 3 jours et demi. Hein. Sauf que là, est-ce que c'est un 3 ans et demi ou c'est un 3 jours et demi? Est-ce que si on dit la dernière semaine de l'Apocalypse, eh bien, c'est 3 jours et demi, les 42 mois, les 1260 jours où les deux témoins prophétisent. Au milieu de cette semaine, ils sont mis à mort. C'est la bête qui monte de l'abîme. Et 3 ans et demi plus tard, c'est-à-dire à la fin de la semaine, hein, c'est une semaine de 7 jours, mais c'est 7 jours qui correspondent à 7 ans. Donc, est-ce qu'ils sont mis à mort et ressuscitent 3 jours et demi après? On va dire comme Jésus, est-ce que Jésus est resté au tombeau 3 jours et demi? Non, pas vraiment. Hein? On a un demi en trop là peut-être. C'est le 3e jour qu'il ressuscite, donc il n'est pas resté 3 jours et demi au tombeau. Donc on pourrait plus dire, on a une semaine prophétique là, où on a la moitié de la semaine, on a les deux témoins de l'Apocalypse qui parlent, qui annoncent. Au milieu de cette semaine, on a la montée de la bête qui sort de l'abîme. Et à la fin, on a la résurrection. C'est ce qui se passe à la fin de ces 3 jours et demi, donc qui peut être cette dernière semaine de l'Apocalypse. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ça, les chrétiens, ça, c'est mieux que quand il y a un but dans une cage et dans un match de foot là, ou de soccer ou de hockey. Ça dit waouh. Peut-être qu'à un moment il y a eu un moment de découragement en disant ils vont être vaincus par la bête et puis mais là c'est la victoire. Ils ressuscitent et donc la mort n'a pas de pouvoir sur eux et la bête ne va avoir finalement qu'une victoire partielle ou temporaire, puisqu'au bout de ces 3 jours et demi, ils ressuscitent. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et c'est un peu pour ça aussi que certains vont dire que c'est Élie et Moïse, parce que ça rappelle un petit peu. D'autres vont dire Enoch, parce que c'est le troisième aussi qui n'est pas mort d'une manière comme tout le monde. Puisqu'il était, il est monté au ciel aussi. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 1/10 partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Hein, on se souvient de cet texte qui avait cité 2 malheurs. Les 2 malheurs sont passés. Et le 3e malheur qui vient, c'est cette 7e trompette ici. Alors, on a donc ces 2 témoins de l'Apocalypse qui sont Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est Moïse? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ils sont clairement identifiés comme étant deux qui vont être la cible de la bête et qu'il va y avoir un temps peut-être de grande noirceur, et c'est là que certains parlent d'extrême tribulation, et ce serait ces 3 ans et demi à partir du moment où la bête sort de l'abîme, mais qu'à la fin, il va y avoir un changement, puisque la bête n'a plus sa victoire, puisque les deux témoins ressuscitent et sont conduits dans le ciel. La 7e trompette, qui est la trompette de l'assaut final, de la toute fin, le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il faut comprendre ici, c'est la 7e trompette qui sonne, c'est la toute fin. Mais l'Apocalypse n'est pas fini. Ça veut dire qu'après, on va revenir avec le chapitre 12 avant le son de cette 7e trompette. C'est parce qu'ici, on a fait les 7 trompettes, mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe après est après la 7e trompette. La 7e trompette, c'est la fin de toute chose, puisque c'est là où le monde est remis au Seigneur et à son Christ. Verset 16, et les 24 vieillards, donc qui rappellent la vision du chapitre 4, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre et le temple de Dieu dans le ciel. Donc là, ça plaide en faveur, parce qu'on est dans le même chapitre, hein, que le verset premier, le temple, soit plus dans le ciel que sur la terre. Mais bon, toujours des arguments dans les deux sens. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, des tremblements de terre et une forte grêle. Et ça rappelle évidemment la révélation de Dieu au mont Sinaï, où là, pour la première fois, eh bien, la table de la loi a été donnée, et puis ensuite... Le coffre de l'Alliance a été construit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce passage-là à ce moment-là? Justement, c'est comme pour donner la révélation a été construite d'une manière pédagogique. Et peut-être pour ne pas décourager le lecteur qui pourrait être accablé par tous les fléaux, les guerres, les ruines, les famines, Et tous les problèmes, eh bien, c'est comme si de temps en temps, on rappelle la fin. Vous savez, c'est un petit peu comme si on dit, bon, il va se passer ça, puis il y a tel événement, mais souvenez-vous, à la fin, c'est comme ça que ça marche. Et après, on continue, mais souvenez-vous, à la fin, comme ça. Et ici, on a cet effet-là, avec la 7e trompette qui nous rappelle qu'à la fin, eh bien, le règne revient au roi, au Seigneur et à son Christ, et que là, les vieillards se prosternent, et qu'il y a une fête, une joie, une gloire qui est dans le ciel et que c'est vraiment le triomphe céleste. Et donc, on nous rappelle cela avant de revenir au troisième malheur. Et donc, pourquoi? Parce que l'Apocalypse n'a pas pour but de nous accabler, de nous terroriser, de nous faire peur et de nous attrister, mais au contraire de nous réjouir en disant oui, peut-être que... parce que là, la bête, on en parle, mais on ne sait pas trop. On va en parler plus tard, mais on dit juste que la bête va monter et va vaincre les deux témoins et va les tuer, mais on s'empresse de nous dire ils vont ressusciter. Et donc la victoire de la bête est que temporaire, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, ces 3 ans et demi là. Et donc l'Apocalypse a pour but de nous rappeler surtout la fin, à savoir le triomphe, la puissance, la gloire, la victoire, eh bien, de tous ceux qui sont avec Dieu. Alors, c'est un message d'encouragement qui est donné à des chrétiens qui souffrent à l'époque où Jean l'écrit, et aujourd'hui, lorsque nous le lisons, on ne veut pas simplement penser à tous les fléaux et à toutes les catastrophes. Vous vous souvenez que pour les fléaux, c'était pour ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc déjà, ça doit nous réconforter, si on a le sceau de Dieu sur notre front, sinon on a raison de s'inquiéter. Et ici encore, même si il va y avoir une bête qui monte de l'abîme et qui amène des temps de malheur, ça, c'est l'amertume de ce livre-là que Jean a lu. Hein. Il a un livre qui a un goût de miel, et l'Apocalypse, c'est un livre qui a un goût de miel, qui a un bon goût, qui doit venir être bon dans la bouche, même s'il y a cette amertume qui est là en disant « mais il va y avoir quand même des temps difficiles », eh bien, il y a à la toute fin eh bien, cette consolation de triomphe, de gloire, de félicité et de victoire finale. Et ça, c'est le message essentiel dont il faut se souvenir lorsque l'on lit l'Apocalypse. Alors, la prochaine fois, on parlera de la bête qui monte de la mer au chapitre 13, et on fera le chapitre 12 et le chapitre 13, donc avec la femme, le dragon et l'enfant. Alors, il y en a qui ont vu la Vierge Marie dans cette femme, ou il y en a d'autres qui ont vu l'Église catholique, ou je ne sais pas trop quoi, on verra ce qu'on peut faire avec cette femme-là. La femme, le dragon et l'enfant, chapitre 12, et le chapitre 13, avec la bête qui monte de la terre. Et là encore, ça parle de choses un peu difficiles, le 12 et 13, et le chapitre 14 nous ramène à l'agneau et au racheté. Vous voyez, c'est comme si on fait un peu d'apnée, on va en profondeur, on n'a pas trop d'oxygène, puis tout d'un coup, une bouffée d'oxygène avant de repartir un peu en profondeur. Et c'est comme ça qu'est construit l'Apocalypse, parce que le but, ce n'est pas de nous décourager, mais c'est au contraire de nous encourager. Alors soyez encouragés en lisant l'Apocalypse, et on continuera ça la prochaine fois.